Bonjour, bienvenue sur Détournement féministe. Aujourd'hui, on a envie de vous parler du dodo, du sommeil, de comment on dort ou comment on dort pas des fois. C'est un sujet sur lequel on a beaucoup causé pendant un week-end qu'on a fait entre nous, là, avec toute l'équipe de Détournement féministe pour accueillir les nouvelles venues. Et on s'est rendu compte que sur ce sujet-là, on avait toutes plein de trucs à dire. Que ça nous concerne toutes, qu'on ait un sommeil agréable ou plus torturé, en tout cas c'est une expérience qu'on a chacune faite, et c'est un sujet qui vient questionner tout plein de choses, nos corps, nos conditions de vie, nos choix de vie, la place qu'on a concrètement dans nos lieux de vie pour dormir, mais aussi la place qu'on a dans la société, le travail, les loisirs, le temps. Donc voilà, tout ça on va vous en causer aujourd'hui dans l'émission. Et à la fin, restez avec nous jusqu'au bout parce qu'on vous fera un psychotest pour savoir quelle dormeuse, toi, auditrice, tu es. Voilà. Et pour démarrer, on va se faire un petit tour pour se présenter.
Ouais, alors bah, moi c'est Béné. Juste pour dire deux mots un petit peu sur mon rapport au sommeil. Moi c'était un sujet qui m'intéressait parce que j'ai un rapport pas si simple au sommeil. En tout cas, c'est un truc qui peut me stresser facilement. Et je pense que je suis assez sujette à l'insomnie, on va dire. Ça m'arrive assez souvent de faire des insomnies, et donc bon, j'ai des petites techniques un peu pour gérer ça maintenant, mais en tout cas, c'est un truc avec lequel je vis depuis pas mal d'années, et voilà, c'est un truc dont j'ai envie de parler et qui me questionne aussi sur pas mal de choses, donc je suis contente de faire cette émission pour ça.
Et salut, moi c'est Elise. Moi, j'aime beaucoup dormir. Je pense que c'est une des activités qui, enfin, c'est l'activité qui me prend le plus de temps dans ma vie. J'ai un grand plaisir à retrouver mon lit et c'est quelque chose qu'on partage beaucoup en coloc chez nous. On a une règle, par exemple, c'est qu'on n'a pas le droit d'aller se coucher avant 22h. Donc des fois, entre 21h30 et 22h, on se regarde et on attend qu'il soit à l'heure d'aller se coucher. Voilà. Donc par contre, en ce moment, c'est peut-être à cause de l'émission de radio, mais ça fait une semaine que je dors pas vraiment. Donc on va voir quel effet ça a sur ce que je vais dire aujourd'hui.
Salut, moi c'est Meryl. Alors moi je suis plutôt une bonne dormeuse, plutôt couche-tôt et lève-tôt en général. Après mon rapport au sommeil, il a quand même pas mal changé assez récemment puisque j'ai deux enfants, donc ça m'a quand même changé un peu la vie depuis 2 ans environ. Pour moi, du coup, le sommeil, c'est plutôt une espèce d'eldorado à atteindre en ce moment, avec du coup dans lequel je me crée des petits bastions et du coup qui est un peu mon moment préféré de la journée. Donc voilà, pas simple, mais j'adore ça.
Et moi, c'est Raph. Du coup, moi, je suis plutôt une grosse dormeuse. J'adore ça. J'adore faire des grasses mats, faire des siestes. J'ai du mal à aller me coucher le soir, mais une fois que je suis couchée, je peux dormir pendant 12 heures sans problème. Voilà, c'est un truc, normalement j'ai pas trop de mal à m'endormir, c'est un truc facile et agréable. Après, bah, un peu comme Meryl, je suis à la veille d'un changement, j'attends un enfant, donc je pressens déjà quelques changements et que ça sera peut-être un peu plus compliqué bientôt.
Super, et ben pour commencer, moi j'avais envie de vous dire un tout petit mot un peu sur le processus, on va dire, biologique de c'est quoi qui se passe quand on dort. Et puis aussi, pourquoi on a besoin de dormir? Alors en fait, cette question-là, j'ai cherché un peu des informations, mais il n'y a pas vraiment de réponse. On ne sait pas trop pourquoi on a besoin de dormir. Ce qu'on sait juste, c'est que bah, on ne peut pas vivre sans dormir, par contre. Et c'est vrai pour tous les êtres vivants. En fait, même chez les animaux, on n'a pas encore découvert d'espèces animales qui ne dormiraient pas, par exemple. Donc c'est vraiment un truc physiologiquement dont on a besoin pour vivre. Et ce qu'on sait, c'est que le sommeil, il est lié à notre cerveau, c'est-à-dire... quand on dort, il y a des connexions qui se font entre nos neurones qui sont plus importantes et ces connexions, elles vont permettre d'améliorer l'attention, la mémoire, la régulation des émotions. Donc on comprend aussi pourquoi c'est bien et c'est important de dormir. Et on a fait aussi des tests qui ont montré que bah, il y avait un lien entre la mémoire et le sommeil. Donc c'est-à-dire que quand on ne dort pas, en fait, ça affecte notre mémoire. Le cerveau, il a aussi besoin, en fait, à des moments de se mettre en pause. Donc, on a remarqué que quand on dort, le cerveau consomme moitié moins de glucose. Voilà, donc ça, c'est un petit peu les pistes qu'on a pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a besoin de dormir. Après, concrètement, qu'est-ce qui se passe quand on dort? Ben, en fait, on a tous et toutes une horloge biologique, ce qu'on appelle une horloge biologique, l'horloge interne, qui est plus ou moins calée sur des horaires qui correspondent à la nuit et au jour. Et cette horloge-là, en fait, elle envoie un signal au cerveau quand c'est l'heure de dormir. Du coup, ça va permettre à notre corps de baisser la température corporelle. Donc, au lieu d'être à 37,5, on est plutôt autour de 36,5. Et il y a du coup une hormone cérébrale qui est synthétisée par la glande pinéale. Et donc, ça s'appelle la mélatonine, qui est sécrétée quand on s'endort, justement. Et après, on a remarqué que les horaires de sécrétion de cette hormone, ils variaient un peu selon les personnes. Donc, il y a des facteurs génétiques qui expliquent ça. Du coup, on n'a pas la même horloge. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont couche-tôt, lève-tôt ou couche-tard, lève-tard. C'est vraiment un truc génétique. Et puis après, ça dépend aussi, évidemment, de l'environnement extérieur qui va jouer sur cette horloge-là. Voilà à peu près ce que j'avais à vous dire sur le fonctionnement biologique du sommeil.
On a toutes et tous des rapports à la nuit et au sommeil qui sont différents. Et donc, on a été interviewées des meufs qui nous ont dit le leur. On vous laisse écouter.
Sommeil, fatigue et repos.
Ben, j'aime bien ça. J'aime bien dormir. Je dors pas forcément beaucoup, mais j'aime bien dormir. Et si je dors pas, ça va pas.
Alors, je dirais que mon rapport au sommeil, c'est, je crois, un truc que j'aime vraiment bien faire, être en tout cas dans mon lit et dans ma chambre, et dormir. Mais que c'est pas un truc dans lequel j'excelle vraiment. J'ai pas des sommeils très suivis, complets. Souvent, je me réveille. Mais que je souffre pas de manque de sommeil, même si je dors peu. Donc, j'ai l'impression que c'est peut-être plutôt réparateur. Mais que c'est plutôt un moment attendu dans la journée.
J'aime bien dormir. Plutôt, c'est quelque chose que j'arrive bien à faire. Sauf quand je regarde trop de séries.
Pas facile, je suis souvent fatiguée. Je fais souvent des insomnies. Et ces derniers temps, je me suis un peu mis au somnifère. Parce que... il y a des moments où j'arrivais pas à m'endormir. Je faisais que pleurer, du coup. Je me suis mis au somnifère comme ça. Mais je suis pas obligée d'en prendre pour dormir. Mais voilà, je fais souvent des insomnies.
Et ben malgré toutes ces choses un peu problématiques que j'ai pu dire là sur les insomnies, en fait j'ai quand même un rapport au sommeil assez doux. Enfin comment dire, c'est la plupart du temps en fait je prends plaisir à aller me coucher et à me dire ah ben je vais avoir une nuit qui m'attend là. Et en fait souvent je rêve aussi, donc en fait et je me rappelle de mes rêves, je veux dire. Et donc je suis aussi un peu émue et excitée par de ce qui va me rester le lendemain matin. Et j'aime beaucoup prendre toujours un temps où je fais rien avant de dormir. Où je suis pas en train de lire, je suis pas en train d'écouter quelque chose, je suis pas en train de parler avec la personne qui dort avec moi ou en train de faire quoi que ce soit. Juste je fais rien et je ferme les yeux et en fait... Je sais pas, c'est des moments aussi qui sont pas forcément dans le sommeil, mais qui le précèdent, et où des fois j'ai un peu l'impression, en fonction de à qui je pense ou à quoi je pense, bah ça vient dans le rêve d'après, et ça c'est trop bien. Voilà.
Tu gères un peu tes rêves en amont, quoi.
Parfois ça arrive, ouais.
Je dors beaucoup. C'est une grande partie de mon activité liée à dormir. J'adore ça, en plus. Et je dors bien.
Tu dors beaucoup, c'est-à-dire
Je dors, j'essaie de dormir au moins 8 heures par nuit. Mais c'est mieux si c'est plus. Et en général, je fais des siestes de 1 à 2 heures. Et si c'est tous les jours, c'est bien. Voilà. Et il n'y a pas d'incompatibilité entre dormir beaucoup la nuit et faire des grosses siestes.
Ah ouais.
Non, c'est pas du tout antinomique. Oui.
Voilà, donc on s'est écouté un premier micro-trottoir sur un peu le rapport au sommeil. Et on avait envie, nous, de parler un petit peu de la question des troubles du sommeil, des insomnies, tout ça, parce que c'est en fait quelque chose qui nous affecte toutes et enfin différemment, mais en tout cas qui est assez fréquent et dont on parle dont on parle pas mal. Et moi, j'avais un peu envie de parler de pourquoi ça m'intéresse cette question-là. Enfin, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, je fais pas mal d'insomnie, donc je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, je sais qu'à des moments, j'ai du mal à lâcher prise. C'est un peu comme si mon cerveau, il voulait pas s'éteindre alors que je suis ultra fatiguée, mais en fait, j'arrive pas à déconnecter. Et c'est comme si, ouais, ça me faisait peur, en fait, de perdre le contrôle sur moi-même et sur mon corps, parce que, en fait, quand on dort, on contrôle plus rien. Et je crois qu'il y a un truc un peu de cet ordre-là dans la question de l'insomnie, c'est arriver en fait à lâcher prise, quoi, à dire ok, j'abandonne tout là, je contrôle rien et en fait je vais dormir. Et je sais pas, pour moi ça résonne un peu avec d'autres questionnements, notamment liés à la consommation d'alcool ou de drogue. On en avait parlé aussi en préparant l'émission, mais ce truc là du lâcher prise, je remarque que c'est pas que dans le sommeil que ça m'arrive, hein, j'ai aussi du mal à le faire dans d'autres contextes. Et comme si, ouais, le fait de perdre contrôle me faisait peur. Et après, c'est un peu bizarre parce que en même temps, des fois, j'ai peur du coup de, enfin, j'ai cette angoisse-là un peu du sommeil, mais j'ai aussi peur de pas dormir. Du coup, c'est comme si quand je dors mal une nuit, la nuit d'après, je vais avoir un peu le stress de me dire ah, cette nuit, il faut que je dorme bien et tout pour rattraper. Et des fois, ça arrive que plusieurs nuits de suite, j'ai du mal à m'endormir. Et du coup, chaque fois que je vais me coucher, j'ai un peu l'appréhension de me dire « Ah là là, est-ce que je vais bien dormir ou pas cette nuit ?» Et il y a un peu ce cercle vicieux-là qui se met en place. Et donc bon, j'essaie de trouver des petites techniques et tout ça, mais c'est pas toujours facile en tout cas. Après, je sais pas, je trouve qu'on arrive aussi à plus ou moins s'adapter et à se dire que c'est pas très grave si on dort pas, qu'on va quand même réussir à faire sa journée le lendemain et tout ça. Mais ouais, c'est pas toujours très très simple à gérer, je trouve. Raph, tu voulais peut-être dire un peu des trucs.
Ouais, moi c'est quelque chose qui m'arrive très peu, les insomnies, donc c'est assez dur à comprendre de l'extérieur. Et les rares fois où ça m'arrive, moi si je mets une heure à m'endormir, c'est un peu dramatique. Du coup, je sais que c'est des échelles qui n'ont vraiment rien à voir. Et ce qu'on s'est dit aussi en préparant l'émission, c'est que c'est pas... Le rapport au sommeil, il n'est pas figé dans la vie, il peut bouger en fonction de nos âges, des hormones, des conditions de vie, du travail, pas travail. Enfin, il y a plein de choses qui font que ça change. Et alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui doit nous rassurer ou pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on avait envie de questionner aussi, de ce changement au fil de la vie, quoi. Moi, j'étais une enfant qui ne dormait pas, jamais, la sieste jamais, le soir jamais. J'étais une ado qui dormait énormément. Et là, depuis que je suis enceinte, je me les réveille très tôt, à 5h, 6h. Je me réveille et je suis réveillée et je ne sais pas quoi faire, ça ne m'est jamais arrivé. Du coup, je m'adapte et j'essaie de trouver un nouveau rythme et de faire des trucs tôt le matin. Mais voilà, c'est des choses qui bougent et on en parlait aussi... avec nos mères et sur la question de la ménopause, c'est quelque chose qu'on discutera peut-être dans une autre émission, mais que voilà, ça bouge et qu'il faut s'adapter à tout ça.
Moi, ça me fait écho à ma mère. Du coup, nous, on est plutôt une famille, moi, donc je suis une bonne dormeuse, mais moi, mes frères, on a plutôt hérité ça de notre mère, l'amour du pyjama en tout cas, du coucher tôt, de choisir d'aller se coucher plutôt que de faire une grosse soirée. Enfin, c'est un truc très familial. Et ma mère, ça doit faire 6 ans qu'elle a commencé sa ménopause. Et c'est hyper trash pour elle, justement, de plus réussir à dormir, de faire des... Donc, elle s'endort toujours tôt, mais par contre, à 2h, elle est réveillée pour la nuit, quoi. Et donc, c'est assez dur et ça impacte hyper fort son moral, justement, de ne pas réussir à dormir et notamment de réhabituer, de réadapter son rythme de vie, en fait. De se dire, ah bah, c'est pas grave, je vais lire la nuit, finalement, plutôt que de lire l'après-midi quand je suis en temps partiel ou des choses comme ça. Et du coup, ça a aussi impliqué la façon de dormir, parce qu'elle a maintenant, elle dort dans nos anciennes chambres, parce que mon père, lui, la nuit, il écrase. Et du coup, pour être tranquille et pouvoir vivre ses bouffées de chaleur plus tranquillement, quoi.
Et moi, je trouve que la question des troubles du sommeil, c'est pas mal lié aussi aux rituels qu'on peut un peu mettre en place. Enfin, moi, je sais que j'en ai pas mal, et que du coup, quand on est un peu angoissé du sommeil, j'ai l'impression qu'il y a un peu tout ce processus de... aller se coucher à une certaine heure, donc en général, plutôt pas trop tard. Après, il y a le moment où on va être un peu dans son lit, mais on va lire pour se préparer à l'endormissement. Ou parfois, moi, ça peut m'arriver aussi d'écouter des podcasts où genre ça raconte une histoire, pas un podcast hyper compliqué où ça parle de théorie, mais un truc où juste ça te raconte une histoire, du coup, petit à petit, ça m'endort. Enfin, en tout cas, moi, j'ai un peu des trucs de préparation comme ça au sommeil où je sais que je peux pas passer de, par exemple, je suis au bar et 10 minutes après, je suis dans mon lit, ça marche pas du tout, quoi. Mais j'ai besoin d'un temps de transition où je sais que je vais mettre dans les bonnes conditions et qu'après je vais pouvoir m'endormir comme ça, mais jamais je m'endors comme ça en 3 minutes si j'étais active juste avant, quoi. Vous voulez rajouter des trucs sur ça? Ou est-ce qu'on s'écoute... On va s'écouter un petit micro-trottoir, du coup, sur des personnes qui nous racontent leur rapport au sommeil et à leurs troubles du sommeil.
Dans les rêves qui sont faits, qui des fois procurent des trucs de sommeil particuliers. Des fois, tu rêves de l'endroit où tu es en train de dormir, et du coup, ça provoque des sommeils particuliers, mais c'est pas des endroits forcément particuliers où tu dors, mais que tu rêves que tu n'arrives pas à te réveiller dans l'endroit où tu es en train de dormir, mais c'est exactement le même endroit. Donc tu sais pas trop si c'est un sommeil. Je sais pas, mettons, là, je m'endors sur le canapé, machin, et dans mon rêve, je suis en train de rêver que je suis dans mon canapé, que j'essaie de me réveiller, par exemple, mais ça marche pas. Tu vois, mais je suis dans mon salon, tout ça, c'est pareil, tu vois. Mais en fait, je suis dans mon rêve. Là, du coup, c'est pas tant l'endroit qui est particulier que le fait qu'il soit formalisé dans mon rêve et que ça fait un espèce de truc où du coup tu galères pour te réveiller. Tu sais pas, quand tu te réveilles pour de bon, tu sais pas si tu t'es réveillé ou non. Voilà.
Une fois ou deux, j'ai fait des angoisses nocturnes. Je sais pas si ça s'appelle, je crois que ça s'appelle comme ça. Où genre j'ai l'impression que. Enfin, mais c'était quand j'étais plus jeune. Où je m'endors à moitié. Et en fait, à ce moment, pile en moment de l'endormissement, eh ben, y a des musiques très fortes et très angoissantes qui arrivent, et des gens qui viennent pour me faire du mal. Et moi, je suis tout à fait consciente de ça, mais je peux pas bouger du tout. Et du coup, ça fait vraiment très très peur. C'est un moment où, du coup, on peut rien faire du tout, et il y a personne qui va venir nous sauver. Et on est conscient de tout ce qui se passe. C'est vraiment très bizarre. Et je sais plus comment ça se termine. En général, j'arrive à me réveiller au bout d'un moment. Enfin, genre, je force. Mais c'est vraiment bizarre l'impression d'être prisonnière du corps qui veut pas du tout bouger.
Et voilà. Et du coup, on avait aussi un peu envie de parler du fait que quand on fait des insomnies, qu'on a des troubles du sommeil, il y a souvent des gens qui nous donnent tout un tas de conseils un peu à la con parce qu'ils ont forcément un avis sur la question et que des fois, ça peut être un peu rageant quand, en fait, c'est un truc auquel on deal avec un peu au quotidien ou en tout cas de manière régulière et que les gens, ils pensent nous donner des solutions. Du coup, on va vous faire écouter une petite compilation de ce genre de conseils à la con qu'on peut avoir sur les insomnies.
T'as pensé à pas boire de café après 16h?
14h?
17h11?
15h14?
Minuit 12?
Non mais je crois qu'il faut prendre une douche froide.
Chaude.
Tiède.
Boire un lait chaud.
Ne pas manger de fromage?
Compter les moutons.
L'homéopathie, je crois que ça marche hyper bien.
Ma belle-mère, prenait des huiles essentielles, c'est super.
Je crois qu'il y a ma cousine qui fume des pétards.
T'as essayé l'acupuncture, on coûte plus trop nos corps aussi.
Je connais quelqu'un qui...
Avec ce que je vais te faire, tu vas dormir, tu vas voir.
Il y a de la mélatonine, tu sais, dans les noix.
Tisane à la camomille.
Ah ouais, ouais. Ma pauvre, moi aussi, une fois, j'ai fait une insomnie. Pff, oh, c'est dur, hein.
Non, c'est pareil.
Ouais, donc après vous avoir fait écouter un peu cette liste de conseils à la con, surtout quand on n'a pas dormi, c'est d'autant plus saoulant d'entendre tous les petits trucs que les autres ont envie de nous partager. Mais on se disait qu'on avait quand même envie justement d'avoir des personnes qui nous parlent de leurs insomnies et qu'est-ce qu'elles font dans ces moments-là pour réussir à... Bon, soit à s'endormir, soit au moins à le vivre mieux. Alors moi, je ne fais pas tant d'insomnie, mais quand ça m'arrive, j'ai deux solutions qui marchent hyper bien sur moi. Et du coup, c'est de me lever, aller prendre une douche, et après, d'échanger les pieds à la tête pour dormir. Je change mes oreillers de place. Et là, des fois, je m'endors, mais dans la minute. C'est assez impressionnant. Ouais.
Je n'ai pas essayé encore, moi.
Bah, tu vas voir. Tu nous raconteras. Et donc, on va vous partager un autre micro-trottoir, hangar et canapé sur des solutions et des petites astuces par rapport aux insomnies.
Quand j'arrive pas à dormir la nuit, je fais des exercices de respiration. J'essaye de me concentrer sur la colonne d'air et de faire gonfler mon ventre, ma cage thoracique, ma gorge, un peu tout. Un peu comme quand je m'apprête à faire de la radio où je sens que je suis un peu dépassée par mes émotions.
Alors au début, je faisais un peu la technique de partir de mes orteils et jusqu'au bout de mes doigts, de détendre chaque muscle et de genre calmer ma respiration et tout. Mais au bout d'un moment, ça ne marchait plus. Donc je fais quand même ça pour me détendre. Sinon, j'aime bien prendre de la valériane, ça me détend. Et où je lis. Hier soir, je me suis endormie sur mon livre. Et voilà, ça, ou sinon, j'ai souvent la fâcheuse habitude, quand j'arrive pas à dormir, de pas chercher à dormir et donc de rester sur mon téléphone ou devant une série. Donc ça nique bien les yeux, c'est pas cool.
Alors la nuit, quand je dors pas, je passe du temps à accepter que je dors pas. Et des fois, soit j'arrive à me rendormir, mais bien sûr, c'est bientôt l'heure où le réveil va sonner. Soit j'ai trouvé une petite technique il y a pas longtemps de prendre de garder un carnet, un stylo à côté, parce qu'en général c'est les trucs qui me trottent dans la tête. Donc quand je finis par accepter que je dors pas, j'allume la lumière, je prends le carnet, je note les trucs que j'ai en tête, et après je suis un peu libérée et j'arrive à me rendormir parfois.
La camomille, de la lavande que je mets sur les draps plutôt, je fais ça, oui.
En général, j'écoute France Culture la nuit, c'est très soporifique. C'est des vieux mecs qui parlent entre eux, de trucs pas intéressants, mais du coup, ça m'endort bien. Et si ça marche pas parce que des fois ça m'agace ou ça m'intéresse, j'essaie d'écouter des romans, comment on dit, des livres audio de Proust. Donc là, normalement, ça marche. Et si vraiment ça marche pas, je renonce à dormir, je crois, et je lis.
Des fois, juste, je me relève et je fais des trucs. Ou je vais faire des trucs que j'ai pas fait la journée, et je vais les faire là. Après, selon l'heure de l'insomnie, c'est pas pareil. Souvent, c'est 3 heures. Mais si je me réveille vers 4 ou 5 heures, je pense que je commence ma journée. Et que j'ai pas de gros... En fait, j'ai rien qui me permette de replonger dans un sommeil vraiment. J'ai pas vraiment d'astuce pour ça. En fait, je pense que je vais vers de la simplicité d'occupation, du temps où je dors pas. Mais je sais pas si je fais des trucs à vocation de pouvoir me rendormir. Enfin, même si... Quand j'étais petite, des fois, je me disais « Faut pas que je me rendorme. » Et là, des fois, bah, du coup, tu t'endors. Et sinon, des fois, tu te tripotes. Et aussi, ça te rendort quand même. En tout cas, moi. Voilà, ce seraient mes deux astuces. Faire semblant de pas vouloir s'endormir ou de se tripoter. J'ai pas mieux.
Avoir tant de gens qui dorment et s'endorment à la nuit, je finirai, c'est fatal, par pouvoir m'endormir aussi. Avoir tant de yeux qui se ferment, couchés dans leur lit, je finirai par comprendre qu'il faut que je m'endorme aussi. J'en ai connu des grands, des beaux, des bien bâtis, des gentils, qui venaient pour me bercer et combattre mes insomnies. Mais au matin, je les retrouvais endormis dans mon lit, pendant que je veillais seul en combattant mes insomnies. À force de compter les moutons qui sautent dans mon lit, j'ai un immense troupeau qui se promène dans mes nuits. Qu'ils aillent brouter ailleurs, par exemple dans vos prairies, labourage et pâturage ne sont pas mes travaux de nuit. Sans compter les absents qui me reviennent dans mes nuits, j'ai quelquefois des vivants qui me donnent des insomnies. Et je gravis mon calvaire sur les escaliers de la nuit. J'ai déjà connu l'enfer, connaîtrai-je le paradis, le paradis? Ce serait pour moi de m'endormir la nuit. Et je rêve qu'on a tué mes insomnies, et que pâle en robe blanche on les a couchés dans un lit. À tant rêver que j'en rêve, les revoilà mes insomnies. Je rôde comme les chats, je glisse comme les souris, et Dieu lui-même ne sait pas ce que je peux faire de mes nuits. Mourir ou s'endormir, ce n'est pas du tout la même chose. Pour autant, c'est pareillement se coucher les paupières closes. Une longue nuit où je les avais toutes confondues, peu s'en fallut au matin que je ne me réveille plus. Mais au ciel de mon lit, il y avait les pompiers de Paris, au pied de mon lit, les adjudants de la gendarmerie. Oh messieurs, dites-moi ce que vous faites là, je vous prie madame, nous sommes là pour veiller sur vos insomnies. En un cortège chagrin viennent mes parents, mes amis, gravement, au nom du Père, du Fils et puis du Saint-Esprit. Si après l'heure, c'est plus l'heure, avant ça ne l'est pas non plus, ce n'est pas l'heure en tout cas, mais grand-mère, s'il est revenu, je les vois déjà rire de leur fine plaisanterie. Ceux qui prétendent connaître un remède à mes insomnies, un médecin pour mes nuits, j'y avais pensé moi aussi. Mais c'est contre lui que je couche mes plus belles insomnies. Avoir tant de gens qui dorment mais s'endorment à la nuit, j'aurais fini, c'est fatal, par pouvoir m'endormir aussi. Mais si s'endormir c'est mourir, allez c'est moi plus insomnie. J'aime mieux vivre en enfer que de dormir en paradis. Si s'endormir c'est mourir, allez c'est moi mes insomnies. J'aime mieux vivre en enfer que de mourir en paradis.
Alors pour clore cette partie sur les insomnies et les troubles du sommeil, on vient d'écouter Barbara qui nous chantait Les Insomnies. Et du coup, en préparant cette émission, le rapport au insomnie, c'était vachement lié aux conditions matérielles de sommeil, et notamment si je dors avec quelqu'un ou pas. C'est-à-dire que les insomnies, je les vis très bien s'il n'y a pas quelqu'un dans mon lit. Alors que s'il y a quelqu'un qu'il faut que j'attende les yeux fermés dans le noir de réussir à me rendormir, là, ça devient quelque chose de très, très dur à vivre. Du coup, on avait envie de parler de ça, des conditions matérielles de la chambre et de la chambre à soi, pour citer Virginia Woolf, et aussi du couple, parce que souvent, la chambre, elle est partagée dans le couple. Donc moi, ça me faisait écho à une relation que j'ai eue quand j'étais plus jeune. Enfin, j'avais 20 ans, je pense. Et en fait, j'ai arrêté mes études, donc j'ai arrêté d'avoir les bourses. Non, j'avais plutôt 23 ans. Mais bon, c'est pas très grave. Mais c'est par rapport. Donc, j'avais pas encore droit au RSA. Et du coup, je me suis retrouvée avec plus de thunes, un peu de stress et tout ça. Du coup, avec un copain qui était aussi mon amant à l'époque, on vivait en coloc et on a décidé de partager une chambre pour payer un demi-loyer chacun. Et ce qui est rigolo, c'est que. Enfin, je sais pas si c'est drôle, mais. Le fait de partager la chambre. Ça a créé une relation de couple. C'est-à-dire que ça a transformé la relation d'amant en relation de couple, de ce truc de quotidien, de dormir dans le même lit, et du coup aussi de ne pas avoir la place potentiellement pour quelqu'un d'autre dans ce lit-là. Et bon, les choses faisant, on a déménagé. Et là, on a eu deux chambres séparées. Et moi, je trouve que ce qui est important, ce qui est intéressant... Ce qui est intéressant pour un couple dans le fait d'avoir deux chambres séparées, notamment, c'est le rapport à son espace, à son intimité. Avoir le choix de dormir ensemble ou de ne pas dormir ensemble. Du coup, de se le proposer et de se donner envie d'être ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on aura des relations sexuelles ou non, mais ça veut dire qu'on a envie au moins de s'endormir l'un avec l'autre ou l'une avec l'autre et de passer du temps ensemble. Donc, je trouve que ça questionne... C'est cette notion de consentement et d'en causer. Et puis, je trouve que ça permet aussi des choses de lâcher prise, justement, sur le sommeil. Moi, je sais que je dors moins bien avec quelqu'un. T'as plus peur de ronfler, de faire des bruits, de t'étaler comme une étoile de mer, un peu. Mais ouais, je trouve que moi, en tout cas, ça me contraint dans mon sommeil différemment que quand je dors toute seule, quoi.
Bah, à propos de contraintes et de dormir à plusieurs, moi, j'avais envie de parler un peu de mon expérience récente de sommeil avec des enfants, notamment. J'ai un sommeil, comme je disais au tout début, qui a beaucoup évolué depuis 2 ans parce que je vis donc en couple avec mon compagnon et j'ai 2 enfants qui ont 21 mois. Auparavant, on vivait en coloc avec d'autres personnes, mais on ne vivait pas juste tous les deux comme ça, puis avec les enfants. En gros, toute la vie a changé, quoi. Mais une des choses nouvelles à gérer, c'est le manque d'espace à soi et puis le manque de solitude, en particulier pour dormir. Le plus intense, c'était les 8 premiers mois, en fait, où on dormait tous les 4 ensemble dans la même chambre. Les petits avaient des lits accrochés aux nôtres. Et on avait un sommeil très haché avec les réveils, donc pas possible de lire au lit, pas possible de rien faire d'autre, en fait, au lit que de s'étendre pour dormir. Je dormais sur le qui-vive beaucoup en me réveillant à chaque bruit, en étant un peu dans un demi-sommeil. Et puis un soir, un peu en loose day, on n'en pouvait plus, donc on est allé dormir dans la chambre d'à côté. Et on y est resté, donc maintenant on ne dort plus avec eux. Et donc, même si on avait la chance dans l'appart d'avoir 2 chambres, les cloisons sont quand même fines et notre chambre est toute petite, on entend tout dans la chambre d'à côté. Donc on ne doit pas faire de bruit quand on se déplace, quand ils dorment, voilà. Et donc, c'est tout un tas de nouvelles contraintes en fait à gérer. Et j'éprouve encore plus qu'avant le besoin d'être seule pour dormir à des moments et d'avoir des espaces de détente Du coup, j'ai un peu élaboré des sortes de stratégies pour être un peu seule à des moments quand j'ai envie de changer. Donc, je vais dormir sur le canapé dans le salon, donc loin de tout le monde, aussi pour pas entendre leur bruit et être vraiment isolée en termes de bruit. D'ailleurs, sinon, je mets beaucoup des bouchons d'oreilles aussi pour dormir. Sinon, je me réveille beaucoup plus. Je me lève aussi beaucoup plus tôt que tout le monde pour avoir des moments toute seule. Donc, boire mon café, lire, écrire aussi un petit peu, des choses comme ça. Et je me couche plus tôt aussi que mon compagnon, donc pour, pareil, avoir un moment toute seule dans mon lit pour lire. Et du coup, je fais des siestes aussi dans la journée, plus pour pareil, être toute seule pour dormir. Donc, c'est tout un tas de mises en place de petites stratégies comme ça. Et ça me faisait quand même penser qu'effectivement, quand on n'a pas la possibilité d'avoir plusieurs espaces pour dormir, il faut quand même trouver des techniques comme ça, que souvent c'est un peu mal vu aussi de dire j'ai dormi sur le canapé. C'est souvent un synonyme de mauvaise passe dans un couple notamment, alors que en fait c'est juste qu'on a envie de dormir tranquille et bien. Donc et du coup c'est aussi faire la chambre à part avec les enfants, c'est aussi quand même beaucoup plus reposant pour moi et j'ai un peu la hantise de dormir dans la même pièce qu'eux. C'est aussi pendant les vacances notamment, ça a été des moments un peu compliqués de très mal dormir quand ils sont à proximité. Donc mais ça me questionne beaucoup cette histoire de pourquoi c'est mal vu de dormir séparé pour un couple alors que en fait c'est des espaces le sommeil où on est seul et on a besoin d'être seul. Parfois pour mieux dormir, en tout cas c'est souvent mon cas. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose.
À la pause, on se posait la question si c'était une injonction sociale aussi à pouvoir surveiller la personne avec qui tu es en couple et tu es censée être en couple qu'avec elle. Au moins si elle dort à côté de toi, normalement, t'es sûre qu'elle ne dort pas avec quelqu'un d'autre, c'est qu'elle n'a pas de relation sexuelle avec quelqu'un d'autre. Du coup, on se demandait si c'était ça l'enjeu, au fait de tout le temps dormir ensemble quand tu es en couple, quoi.
En tout cas, c'est vrai qu'on se disait aussi l'inverse, c'est-à-dire que le fait de dormir ensemble signifie qu'on a probablement peut-être des relations sexuelles et que si on dort séparé, on n'en a sûrement pas. Donc, que du coup, c'est aussi pour montrer que potentiellement, on va bien quand on couple, on dort ensemble parce que possiblement, on a encore des relations sexuelles, alors que si on dort séparé, ça veut dire qu'on n'en a pas, donc qu'on va moins bien en tant que couple, alors que en plus, l'espace sexuel n'est pas forcément celui du sommeil et de la nuit, même...
Plutôt pas.
Ouais, et puis moi, je trouve qu'il y a ce truc aussi de... Enfin, je sais pas, je me dis, en fait, ça devait être ouf à certaines... Enfin, je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même moins le cas. Je pense que les gens, ils se mettent moins la pression par rapport à ça et que moi, je vois même plein de gens... après, c'est souvent, je sais pas, des gens, par exemple, de l'âge de nos parents... à 50, 60 ans, qui se disent « Bon, allez, vas-y, maintenant, c'est bon, chacun sa chambre, on arrête de faire semblant, tu vois. » Mais je pense qu'il y a peut-être les générations d'avant, c'était pas du tout comme ça. Et je pense, comme tu dis, c'était hyper mal vu. Et donc, je pense que toute ta vie, t'étais censée dormir dans la même lit que ton mari ou ta femme, mais genre jusqu'à ce qu'il meure, quoi. Ça devait être vraiment un truc de fou, quoi. Moi, je me dis, je sais pas comment les gens, ils faisaient pour pas péter des câbles, en fait. Ça devait être vraiment chaud, quoi.
Moi, j'avais été visiter une coloc que j'avais trouvée assez étonnante, où justement la maison, elle n'était pas, organisée en fonction des gens. Donc chaque personne avait sa pièce sa chambre à lui ou à elle. Et en fait, il y avait un gros dortoir. Il y avait deux chambres d'intimité, en gros, où là tu pouvais être toute seule. Il y avait une grosse bibliothèque avec un endroit où se poser. En fait, il n'y avait pas assez de pièces pour que chacune ait sa chambre. Et que du coup, de penser les choses comme ça et qu'elles puissent répondre à chacun des besoins et pas à chacune des personnes.
Ouais.
Moi, j'avais trouvé ça hyper intéressant. Je me suis dit, ouh, je suis pas sûre de pouvoir le faire. Mais par contre, de penser les espaces comme ça, dans leur utilité, je trouvais ça classe.
Est-ce qu'on s'écouterait du coup un petit témoignage sur la chambre à soi? Du coup, une copine qui témoigne un petit peu de cette question de la chambre à soi.
Ah, la chambre à soi. Eh ben, là, tout de suite, j'en ai pas. Je suis dans un salon, sur un canapé. Pendant 2 ans, j'ai partagé le lit de quelqu'un dans un appart qui n'était pas le mien. Et j'ai vraiment souffert de ne pas avoir d'espace à moi. même si la personne avec qui j'étais était souvent absente, en fait, c'était quand même compliqué de ne pas avoir d'espace pour poser un peu toutes mes affaires et puis aussi pouvoir choisir quand est-ce que je peux dormir seule ou pas. Et je m'étais pas forcément rendu compte avant de vivre cette expérience du coup de vie en couple de à quel point j'avais besoin de ça. Et en fait je crois que c'est hyper important pour moi, quand bien même ça pourrait me réarriver de vivre avec quelqu'un avec qui j'ai une relation sexuelle, affective, enfin en gros je sens que c'est hyper important d'avoir un espace à moi dans l'appart ou la maison où je pourrais habiter. Et j'ai eu la chance quand même d'avoir toujours eu une chambre à moi dès le plus jeune âge. Et du coup, j'ai une sœur, mais on avait chacune notre chambre. Et même si je me suis toujours retrouvée, du coup, comme je disais tout à l'heure, quand même plutôt dans des dynamiques de vacances à plusieurs, avec pas mal d'autres enfants, et à dormir dans des dortoirs, ce qui fait que j'ai pas cette angoisse, par exemple, comme peuvent avoir certaines copines à moi, de je peux pas dormir avec quelqu'un que je connais pas. Ça me gêne pas trop, mais par contre, je vois bien aujourd'hui que ben, le fait d'avoir toujours eu une chambre à moi, ben, ça a quand même créé un peu cette envie de la retrouver, maintenant, en étant adulte, je dirais ça.
Et du coup, qu'est-ce qui est important pour toi dans le fait de dormir seule? Enfin, qu'est-ce que tu trouves dans le fait de dormir seule ou dans le fait de dormir à deux? Pourquoi t'as besoin des deux ou pas? Enfin...
Je dirais que dans le fait de dormir seule, il y a un abandon de moi-même que je trouve beaucoup plus facile et que je suis pas obligée de je sais pas, avoir des gestes ou des attentions pour la personne à côté. Et en fait, j'ai l'impression que ça m'apaise et que ça me repose et que ça me permet aussi de me décharger un peu mentalement de toutes ces préoccupations pour l'autre que déjà j'ai l'impression d'avoir un peu dans ma tête tout le temps. Et que là, en fait, le fait de pouvoir dormir seule, c'est aussi un moment où bah, tu te retrouves avec toi-même. Et c'est hyper précieux, ouais, d'avoir ces moments où juste tu calcules personne d'autre. Et où en fait, tu peux aussi te lever quand tu veux et vraiment prendre le temps de sentir à quel moment t'as envie de dormir, à quel moment t'as envie de te lever. Des choses que j'ai un peu plus de difficultés à faire parfois. Si je dors avec quelqu'un qui va se lever tôt, bah, je sais pas, j'ai quand même toujours un peu une envie de me lever avec l'autre parce que, je sais pas, parce que la journée démarre et que du coup j'ai envie d'en être. Mais voilà, et de ce que j'aime bien dans le fait de dormir à deux, c'est toute cette complicité aussi, même dans le sommeil, en fait, de se rendre compte qu'il y a certaines personnes avec qui je dors super bien et d'autres avec qui, même des super potes, avec qui je veux pas dormir, vraiment. Parce que elles grincent des dents ou parce que, en fait, elles bougent énormément. Et quand tu trouves des corps, des gens avec qui tu sens que, bah, en fait, tu peux dormir juste côte à côte et que ça marche, en fait, c'est assez plaisant. Et j'ai souvenir d'une relation amoureuse avec une meuf où, en fait, le plus dur, c'était de dormir, en fait. Enfin, on n'arrivait pas du tout à dormir ensemble. Et c'était triste, parce qu'on s'aimait beaucoup. Et en fait, on n'arrivait pas à juste s'endormir, quoi. Enfin, en fait, je sais pas, on dormait pas quand on était ensemble. Et en fait, c'était un peu bizarre, quoi. Et au bout d'un moment, au bout de plusieurs mois de relation, quand toutes les deux on a pu goûter à cette joie de s'endormir et de faire une vraie nuit, ben là on a eu un peu le sentiment de passer une sorte de cap, parce que je trouve que partager la nuit avec quelqu'un avec qui tu as une relation affective, sexuelle, enfin où il y a du désir aussi qui se joue, je trouve que en fait le lâcher prise dans le sommeil est hyper hyper dur à faire pour moi, quoi.
Et du coup, on avait un petit peu aussi envie de vous parler de ce qu'on a appelé la pression sociale face au sommeil, c'est-à-dire que dans certains contextes, c'est pas toujours facile d'assumer d'avoir besoin de sommeil. Et aussi, on est aussi vachement contraint par nos vies, que ce soit le travail, l'école ou même la vie nocturne, les fêtes, etc. On est vachement contraint par ça, donc dans nos temps de sommeil, et que du coup c'est parfois difficile de gérer quand est-ce qu'on dort ou quand est-ce qu'on fait autre chose, et que il y a un peu aussi une pression comme ça. Si en fait on est en forme, bah en fait on va pas se coucher tôt, quoi. Et moi j'avais entendu une émission sur Arte Radio qui s'appelle Miko the Night sur le sommeil, qui m'avait assez parlé là-dessus, parce que elle parlait notamment du fait que il y a des hommes politiques qui mettent vachement en avant le fait qu'ils dorment très peu. Donc, par exemple, notre président. Et en fait, ils disent « Oui, non, mais moi, ça va, j'ai besoin de dormir 3-4 heures par nuit, je me suis bien et tout. » Et en fait, ça donne une image comme ça de quelqu'un qui est hyper productif, qui est hyper efficace, qui n'a pas besoin de dormir, un peu le rêve du capitalisme, en fait, quoi. Et par comparaison, ça va faire culpabiliser plein de gens qui, peut-être, ont besoin de dormir 7 ou 8 heures ou 9 heures de sommeil par nuit. Comme si, en fait, tout ce temps de sommeil, c'était du temps perdu, du temps pas productif, du temps où on fait rien. Et du coup, c'est pas du tout valorisé dans notre société de dormir, quoi, en tout cas. Et ouais, donc il y a un peu tout ce truc-là en fait, si on est quelqu'un d'efficace, si on est quelqu'un de productif, ben, on dort un petit peu, puis après, voilà, on est parti, quoi. Et donc, ça pose quand même vachement aussi la question de, par exemple, je trouve avec le télétravail, de quand est-ce qu'on arrête d'avoir, de travailler, c'est-à-dire à quel moment on met la limite. Et en fait, pour moi, c'est aussi lié à ça, c'est-à-dire si on reçoit des mails à 21h, 22h et que peut-être on y répond, ça empiète quelque part sur notre temps privé et donc sur notre temps de sommeil aussi potentiellement. Et voilà, du coup, j'avais envie de dire un peu ça là-dessus.
Moi, ce que tu me dis, ça me parle pas mal parce que pendant mes études, j'ai fait des études en artistique. Et donc, on avait des projets à rendre régulièrement et tout. Et c'était un truc très courant dans ce milieu-là, et de la culture de pas dormir la nuit pour travailler. Donc, la culture de la charrette, de la nuit blanche et tout ça. Et du coup, même les profs nous disaient concrètement, bon, bah, vous avez un rendu la semaine prochaine, vous allez travailler ce week-end. Ceux qui ont dormi la nuit d'avant, c'est qu'ils n'ont pas assez travaillé. Du coup, c'était quand même assez... on nous inculquait vraiment ce truc-là, que si on dormait la nuit, en fait, c'est qu'on n'avait pas assez travaillé et qu'il fallait absolument travailler la nuit. Moi, je suis vraiment, en fait, convaincue que c'est une grosse erreur, parce que quand on dort pas, on est très mauvais aussi au moment de sa présentation de rendu. Ça nous a tous et toutes marqués en tant qu'étudiants, complètement fatigués, on pouvait pas faire quelque chose de très intéressant, et puis que la nuit on n'était pas du tout productif, en fait.
Ouais, c'est clair.
On avait vraiment beaucoup moins de créativité ou autre chose, quoi, même de travail. Donc mais j'étais, et même après dans le milieu du travail, donc dans le milieu plutôt de l'architecture, du paysage et tout ça, j'ai travaillé dans des agences où c'était aussi la culture courante, en fait, de rester tard le soir pour travailler, de travailler les week-ends, etc. Et c'était, bon, voilà, une culture assez libérale aussi d'entreprise, mais que dans laquelle le sommeil était complètement mal vu, en fait, et assez discrédité. Donc ouais, je pense que c'est quand même assez fort, assez symbolique de cette culture patriarcale.
C'est clair. Et oui, moi, je voulais dire aussi que c'est même pas que dans le travail, mais par exemple, ce que je disais sur la fête, c'est qu'en fait, je sais pas, moi, je suis souvent parmi les premières à aller me coucher quand il y a des fêtes, ou le soir, si je vais au bar, par exemple. En fait, je reste pas forcément tard, et je sais qu'il y a des gens qui veulent toujours rester plus, et pour qui aller se coucher, c'est un peu c'est un peu un échec, ou en tout cas, c'est pas le truc dont ils ont envie sur le moment. Mais je sais pas, moi, j'arrive pas à me dire, en fait, je vais rester hyper tard, parce qu'après, je sais aussi que je dors pas trop le matin, donc plus je reste tard, moins je vais dormir. Et d'avoir cette... je sais pas, je trouve que c'est compliqué parfois à assumer socialement, de dire, en fait, c'est vendredi soir, mais je vais me coucher à 23h, et voilà, ça va, tout va bien, je le vis bien, quoi. Mais il y a un peu cette culture-là de « non, mais il faut rester, il faut profiter, c'est le week-end et tout ». Et du coup, moi, j'arrive pas trop à suivre cette injonction-là, en tout cas.
Et moi, j'ai bossé dans l'animation, du coup, en colo. Donc, on bosse Enfin, c'est du 24-24, quoi, pour s'occuper des gamins. Donc, en gros, tu passes ta journée à bosser avec les mômes. Après, t'as la réunion d'équipe, qui est souvent quand les enfants sont plus ou moins sur le chemin d'aller se coucher, quoi. Pas forcément coucher, mais... Donc, ça finit déjà tard. Et après, en fait, toute l'interaction sociale de faire équipe, de se raconter des choses, que ce soit joyeux, tu bois une bière aussi, enfin, ouais, le moment festif, c'est encore après. Et du coup, moi, je sais que c'était pas possible. En plus, je faisais partie de celles qui me levaient tôt le lendemain et tout ça. Donc, moi, j'allais toujours me coucher. Donc, avec toujours un petit rituel de soude de ma gueule parce que j'allais me coucher. Donc, je vis assez bien parce que quand je suis fatiguée, moi, j'ai envie de dormir. Il n'y a pas grand-chose qui m'en empêche. Donc, on me chantait souvent la chanson « Ouh, ah bah, les gens qui dorment !» comme ça, quand j'allais me coucher. C'était pas toujours très agréable. Mais je me rends compte aussi que ça jouait sur la façon de faire équipe avec les autres. Parce qu'en fait, tous ces moments informels qui se passaient le soir auxquels moi, j'étais pas, mais il se passait des choses importantes, et notamment des choses relationnelles très fortes, positives ou pas, entre elle et eux à ce moment-là. Et moi, je loupais tout, quoi. Moi, j'arrivais le matin pour faire le petit-déj, et j'étais en dehors un peu de la vie d'équipe, quoi. Je trouve que ça joue beaucoup. Et quand moi, je me pose la question de travailler ou pas, l'idée de pas dormir assez, c'est vraiment quelque chose qui m'angoisse. De me dire, en fait, travailler pendant 7 heures par jour, plus aller au travail, revenir du travail et tout ça, et dormir 10 heures, bah, il me reste rien comme temps pour faire des trucs que j'aime. Et moi, ça me fait hyper peur. Donc, ouais.
Est-ce que du coup, Raph, tu voulais dire un truc ?
Ouais, parce que du coup, ça questionne pas mal le lien au travail aussi et en effet à ce qui se joue socialement. Mais moi, j'ai mis très longtemps à assumer d'aller me coucher tôt. Je faisais partie des gens qui avaient envie de traîner, de pas louper justement la fin de soirée. Et j'ai mis vachement de temps à être à l'écoute des signaux de « ben en fait, non, là, je suis fatiguée ». Et alors, l'alcool aide pas non plus. Des fois, il maintient en éveil alors qu'en fait... les phases de ma vie où j'ai pas bu d'alcool, j'étais beaucoup plus à l'écoute de la fatigue et de se dire que bah, tant pis, on loupe des choses et on va se coucher. Et moi, ça me rappelle vachement le conditionnement de collégienne, notamment. J'habitais à la campagne, j'étais en bout de circuit de car, donc je prenais le car hyper, hyper tôt et je rentrais le soir hyper tard. Et du coup, pour moi, me lever le matin, c'était dur. Moi, j'adore faire la sieste, donc d'avoir ce rythme hyper soutenu. Je trouve qu'on est conditionné dès l'enfance à avoir un rythme de sommeil hyper contraint, à se réveiller un moment, on n'en a peut-être pas envie, à devoir tenir une journée de folie, à devoir... Voilà, ça, c'est quelque chose qui est incorporé dès qu'on est tout petit, et je pense que ça joue après dans le fait qu'on n'arrive pas trop à s'écouter, à savoir si est-ce que je suis fatiguée, pas fatiguée, parce qu'en fait, dès petit, on nous a imposé des horaires hyper contraints et à l'opposé de notre horloge biologique potentiellement, quoi.
Du coup, c'est vrai que ce que tu dis là, notamment sur la vie des enfants et la vie des ados aussi, ça nous posait question de savoir ce qu'eux ressentent dans leur vie... quotidienne en fait par rapport au sommeil, et on a été interviewer Anouk, une collégienne qui est en quatrième, pour lui demander quel est son rapport au sommeil et comment se passe sa vie quotidienne de dormeuse.
Alors moi je dors dans mon lit, dans ma chambre, donc je suis toute seule dans ma chambre et je préfère parce que je trouve je dors mieux toute seule, c'est mon espace à moi. Et je dors plutôt bien en ce moment. Parce qu'avant le confinement, pendant à peu près un mois, un dimanche soir, je me suis endormie vraiment très tard, j'arrivais pas à m'endormir. Et après, tous les autres dimanches, je stressais à l'idée de mal dormir. Du coup, je dormais mal. Puis ça a duré à peu près un mois. Puis après, il y a eu le confinement. Je m'endormais tard ou je me levais tard. Ça dépendait des jours en fait, c'était très aléatoire. Mais je dormais pas forcément bien parce qu'il y avait le travail à la maison. Et le travail à la maison, c'est beaucoup plus stressant. Enfin, je trouve ça plus stressant qu'une journée de cours. Je me couche vers 21h30. J'arrête de lire vers 22h et je m'endors vers 22h30. C'est assez régulier. C'est pas un coup je suis au lit à 19h, un coup je suis au lit à 23h. C'est vraiment... Je suis au lit entre 21h et 22h. Par exemple, 22h, faut quand même que je sois dans ma chambre, quoi. Je suis dans ma chambre à 22h, je suis forcément dans ma chambre. Je contrôle quand même pas mal mon heure de coucher. Je trouve qu'on se sent mieux la journée. Déjà, on est de meilleure humeur. Parce que moi, quand j'ai mal dormi, je suis quelqu'un de très pénible. Du coup, bah, déjà pour les autres et puis pour moi, parce que c'est pas forcément évident de se trouver grognon et tout ça. Et du coup, bah, déjà pour ça. Et puis parce que j'aime bien dormir. Et puis, ça me fait culpabiliser de pas assez dormir. Je me dis que c'est de ma faute, que si je dors pas assez, que ça va me mettre en difficulté, que je vais faire des insomnies et ça me... Si je m'en fiche de l'heure, ça me fait culpabiliser après. Sur les conséquences qu'il y aura ou pas. Par rapport à mon humeur, par rapport aux disputes, parce qu'on dispute beaucoup plus facilement avec les gens quand on est de mauvaise humeur. Par rapport aux cours, parce que quand je suis fatiguée, je comprends rien et j'ai envie de dormir. Puis tout simplement par rapport à moi, parce que je trouve qu'on se sent mieux, on se dit « Ah, cette nuit c'est bien, j'ai bien dormi, j'ai beaucoup dormi, je me sens bien, c'est parfait, je vais être en forme toute la journée. » Et je trouve que quand on a bien dormi une nuit, on redort bien la nuit d'après. Alors que quand on dort mal la nuit d'après, généralement, en tout cas pour moi, on dort mal, je trouve. Et je pense que je dors quand même pas mal par rapport aux autres gens de mon âge. Quand même, c'est super quand j'arrive à dormir 8h30. Enfin, en semaine, hein, le week-end, je dors un peu plus. Mais quand je dors 8h ou 7h30 minimum, je suis en forme. Mais déjà, moi, je trouve que dormir 8h, je trouve que à mon âge, c'est pas assez. Je trouve que normalement, je devrais peut-être au moins dormir 9h. Enfin, vu qu'on est encore en train de grandir et tout, à mon avis, on devrait quand même un peu plus dormir. Mais il y en a qui dorment beaucoup, beaucoup moins. Ces personnes, ça les fait pas... J'ai pas l'impression que ça les fasse culpabiliser ni rien. Alors que moi, c'est vraiment essentiel pour me sentir bien. Parce que culpabiliser parce qu'on a mal dormi, c'est vraiment bête si on avait l'occasion de bien dormir. Et puis, j'ai eu un exemple. L'année dernière, il y a un garçon dans le rang avant d'aller manger qui a dit que... Je ne sais pas comment c'est venu, mais qui a dit que... La veille, il s'était couché à 23h. Et une fille lui a fait la remarque qu'il était un papy. Et que si, quand il serait en maison de retraite, à quelle heure il se couchait si maintenant il se couchait à 23h. Alors que pour moi, se coucher à 23h, quand on a cours le lendemain, c'est vraiment très tard. Moi, c'est pas imaginable.
L'interview a un peu coupé avant la fin, mais c'est pas... Bon, voilà, globalement, Anouk nous racontait comment c'était pas imaginable pour elle de se coucher aussi tard que le garçon de sa classe, enfin, qu'elle a rencontré au collège. Enfin, en tout cas, c'est vrai qu'on a pas mal échangé, et ce qui ressortait, grosso modo, c'est que, bah, quand même, les journées au collège sont assez chargées. Il y a eu toute la crise de Covid et tout ça, où elle a beaucoup... Enfin, eu quelques troubles du sommeil et tout ça aussi, et disait qu'elle avait quand même beaucoup de stress lié à tout ce rythme qui était assez intense. Donc, que du coup, fabriquer son cadre pour le sommeil était pour elle un moyen d'être rassurée, et que du coup, c'était comme ça qu'elle vivait son rapport avec son lit, avec sa chambre et tout ça. Donc, c'était vraiment, vraiment très intéressant. Voilà.
Ok. Moi, d'écouter Anouk, ça me refait penser à... à la sensation corporelle quand je repense au collège du réveil à 6h du matin et donc 5 matinées de suite et de la douleur que c'était physiquement quoi. Moi je me couchais hyper tôt en plus, mais c'est vraiment ce souvenir là que j'ai du collège quoi. On était le premier arrêt en pleine campagne, donc forcément on partait très tôt. Donc là on voulait enchaîner avec un petit micro-trottoir. Donc pour finir avant le psychotest, pour dire que quand même, le sommeil, c'est pas que les troubles, la difficulté de partager sa chambre et tout ça. Donc, on a interrogé les copains et les copines sur des expériences de dodo loufoque, de dodo un peu bizarre, un peu improbable. Et on va vous faire écouter ce qu'ils et elles nous ont répondu.
En fait, j'en ai pas mal. Des histoires de dodo loufoque, parce que souvent je m'endors, en fait j'ai une facilité à m'endormir n'importe où, donc Ça m'est arrivé de m'endormir sur du gravier dans une soirée au milieu de la fête. Voilà. Et après, il a fallu que je monte l'escalier parce que les gens voulaient absolument que je dorme sur un truc plus confortable que du gravier. Mais je comprenais pas trop pourquoi, parce que moi, j'étais hyper bien dans mon sommeil à ce moment-là. Ou sur un parquet, sur le plancher, au moment où tout le monde faisait la fête autour. Enfin voilà, je m'endors souvent en soirée. Après, je reviens dedans. Je pense que ça fait des trucs un peu loufoques.
Une fois où on avait dormi en tribal à la fin d'un festival par terre dans les graviers, en attendant que, on était jeunes, on n'avait pas le permis, en attendant que ma mère vienne nous chercher. Et ça, ça avait été plutôt cool, parce qu'il y avait une grosse transhumance de gens, et on dormait par terre dans les graviers, les têtes sur les jambes des autres. Et on avait quand même plutôt bien dormi, parce qu'on était plutôt très fatigués.
Quand j'étais ado, je suis allée bosser dans les framboisiers en Ardèche, et on dormait dans un arbre qui faisait 5 mètres, à 7 dans des hamacs un peu comme si on était sur des appartements l'un sur l'autre dans cet arbre. Et le premier matin, on s'est réveillé et il y avait un cheval en dessous.
C'était encore une fois une histoire de camping. C'était cet été où j'étais en train de camper avec une amie qui venait me voir avec ses deux enfants. Et en fait, on plante la tente, on n'était pas très loin d'un lac. Et puis on laisse un peu toutes les affaires du pique-nique dans l'herbe, on se préoccupe pas trop, la soirée passe, on regarde les étoiles, à un moment on va un peu se baigner et tout ça. On est au bord du lac et puis là on entend des bruits chelous d'aspersion. Et en fait là, il y avait ma pote qui était partie se coucher à la belle étoile à côté de la tente où il y avait les deux enfants qui dormaient. Et là, elle s'est fait vraiment réveiller par l'aspersion. Nous, on a couru dans le noir avec nos frontales pour récupérer toute la bouffe et tous les duvets à faire qu'on avait laissé dans l'herbe et qui étaient en train de se faire arroser. Et ce moment où tu vas réveiller les deux enfants, mais en fait ils sont pas du tout endormis, ils sont trop contents, ils se disent mais qu'est-ce qui se passe, des jets d'eau, ouais on va sous l'eau, et il est 3h du matin et c'était trop marrant.
Il y a un peu moins d'un an, j'ai dormi sur le bateau de potes à Douarnenez. Et sur un bateau trop cool, un vieux bateau qui a 100 ans, c'était tout humide à l'intérieur. Donc c'était assez marrant de dormir sur un bateau, genre dans les couchettes de marins là, hein, c'était pas un vrai lit, donc ça c'était assez drôle.
Alors pour clore cette émission, on vous propose un psychotest qui a été créé au moment des rencontres radio libres qu'on a fait dans le Finistère, là, pour la nuit de la radio. Donc pour vous préparer, pour savoir quel dormeur ou quelle dormeuse vous êtes, il vous faut un stylo, un papier. Si vous n'avez pas de papier, vous pouvez marquer sur votre bras, ça marche aussi. Et donc vous pouvez préparer les carrés, les ronds, les triangles et les étoiles. Et en fonction de vos réponses, mettre combien vous avez de carrés, combien vous avez de ronds, de triangles et d'étoiles. J'espère que c'est clair pour vous. Et c'est parti.
Première question. Ton kit spécial dodo ressemble plutôt à carré. Tes boules caisses, ton cache-œil, ton verre d'eau, ta bouillotte.
Rond, un oreiller dur, un oreiller mou, ton traversin, tes plaids, ta couette et ton pyjama préféré.
Triangle, ton livre et tes écouteurs, kit de survie pour l'insomnie.
Et étoile, ton réveil et un babyphone.
La deuxième question, c'est tu dors où ?
Carré, dans ton lit, toujours.
Rond, n'importe où, à l'horizontale ou à la verticale, peu importe.
Triangle, dormir ? Pourquoi faire ?
Étoile, en vacances quand t'es pas chez toi.
Troisième question, tu vas te coucher. Carré, à l'heure pour ne pas louper ton train du sommeil.
Rond, dès que tu peux, quand tu as 5 minutes.
Triangle, jamais.
Et étoile, quand c'est déjà trop tard.
Quatrième question. Quand tu dors pas la nuit ?
Carré. Tu essayes une des 25 techniques d'endormissement que tu connais. Lecture, écoute de podcast, relaxation.
Rond. Tu dors toujours.
Triangle. Tu reprends le cours normal de ta vie.
Étoile. Tu penses à la réunion de demain matin.
Cinquième question. Y a quoi dans ton lit ? Carré. Rien. Le lit, c'est sacré.
Rond, des traces de bave sur l'oreiller.
Triangle, des sextoys.
Et étoile, une pile de fringues que tu n'as pas rangée.
Sixième question, ta config dodo idéale ?
Carré, toute seule.
Rond, toute seule, mais tu ne dis pas à ton amoureux, à ton amoureuse.
Triangle, toute seule, mais tu acceptes un sleeping avec les copains-copines.
Étoile, toute seule, mais il y a souvent ton chien, ton chat, ton enfant.
Et la dernière question, la question 7. Ta relation avec ton réveil. Carré, t'en as pas, tu te réveilles avant.
Rond, il est mort et enterré depuis longtemps.
Triangle, il sonne toujours quand tu viens de t'endormir.
Et étoile, toutes les 5 minutes, tu le supplies pour 5 minutes supplémentaires. Alors vous pouvez faire les comptes.
On vous laisse faire les comptes.
Et maintenant, les résultats. Alors, si vous avez plus de carré, tu es dans le dodo maîtrisé. Pour toi, le dodo, c'est un art régi par tes propres codes que tu maîtrises sur le bout des doigts. Tu t'adaptes difficilement à de nouvelles conditions, mais avec le temps, ton kit de survie s'est étoffé. T'es sur la bonne voie.
Si tu as un maximum de ronds, tu es dodo passion. Pour toi, le dodo, c'est un mode de vie. Tu es la reine du sommeil en toutes circonstances. Ton pyjama et ta tenue de lumière et ton oreiller et ton meilleur ami.
Si tu as un maximum de triangles, tu es dodo flottant. Pour toi, le dodo est un sport de combat. Tu ne perds pas ton temps à de telles futilités. Pourquoi dormir quand on peut vivre ? La nuit, tu brilles comme une licorne à paillettes.
Et enfin, si tu as un max d'étoiles, tu es dodo contrarié. Pour toi, le dodo, c'est un rêve inaccessible. Tu pourrais appartenir à chacune des catégories, mais rien n'y fait. Tu es rattrapé dans ton sommeil par ton chien, ton taf, ton gosse. Mais ne perds pas espoir. C'est comme une boule de flipper qui roule.
Et ben, on voulait remercier toutes les personnes qui ont contribué à cette émission et au micro-trottoir notamment. Et puis, on voulait vous dire aussi qu'on était super contentes de se retrouver en studio et on vous dit au mois prochain.
Salut.
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 Et on s'écoute une dernière musique.
Il est 7h du matin, faut se réveiller. Oh, je sommeille. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Ouais, c'est pas tout à fait ça. Je trouve plus ma brosse à dents. Quel passé celle-là encore. La bleue est à mon père. La rouge est à ma mère. La jaune est à mon frère. Vous avez pas vu ma brosse à dents? Tiens, on est lundi aujourd'hui. Ah, pour demain, j'ai un devoir d'anglais. J'aimerais bien avoir Paul McCartney pour m'aider. J'ai envie de mettre un 10 pour embêter les voisins qui roupillent toute la journée. Quelque chose comme un bon Elvis Presley. Oh mais c'est vrai, celui-là il en est resté. Un peu d'eau sur la figure pour me réveiller. Le dodo c'est terminé. Je suis presque prête et ça va beaucoup mieux. Je mets mon Shetland rouge ou bien mon Shetland bleu. Mon Shetland rouge. Mon Shetland bleu. Mon Shetland bleu. Mon Shetland rouge. Non, mon Shetland bleu. Mon Shetland rouge.